On va maintenant prendre des nouvelles de Nicolas Sarkozy. 3 jours après sa condamnation, il a été aperçu au Parc des Princes hier pour suivre la rencontre PSG Auxerre. Et aujourd'hui, eh bien, c'est son épouse, Carla Bruni, qui nous donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Elle interprète une chanson que vous connaissez forcément.
Je peux te jouer une chanson, mon amour ?
Avec plaisir.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, there is still a light that shines on me, shines until tomorrow.
De Carla Bruni qui est filmée par Nicolas Sarkozy. Alors, pour en parler sur ce plateau, on est avec Geoffroy Didier, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président des Républicains, président délégué de la région Île-de-France. Albert Zenou, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Une voix suisse est avec nous, Richard Verly,
bonsoir.
Journaliste correspondant France et Europe pour le média suisse Blick. Joachim Pueyo, bonsoir. Ça va être très intéressant de vous entendre. Ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis et maire PS d'Alençon. Merci également d'être avec nous. Alors, Geoffroy Didier, vous connaissez parfaitement Nicolas Sarkozy. On le voit, c'est lui qui filme cette vidéo de Carla Bruni. On l'entend plutôt souriant derrière la caméra. Il n'a pas l'air abattu. Est-ce que vous, ça vous étonne? Vous le connaissez parfaitement.
Je crois qu'il est très combatif parce qu'il a foi en son innocence et qu'il a décidé d'utiliser toutes les voies de recours possibles pour la faire triompher. Et qu'il sait qu'à la fin de l'histoire, c'est la vérité qui triomphera. Mais il est aussi atteint, sa famille est atteinte, tous ceux qui l'ont apprécié. Et puis il y a tous ceux qui même ne l'ont pas soutenu, qui n'ont jamais voté pour lui, mais qui aujourd'hui s'interrogent sur une décision de justice, sur la proportionnalité de la peine, sur l'opportunité ou non de revoir et de réformer l'exécution provisoire, de ce délit générique un peu fourre-tout qui est celui de l'association de malfaiteurs qui a été ajouté in extremis. Bref, moi, je suis avocat et pas seulement responsable politique. Je crois en la justice. J'ai un profond respect pour l'autorité judiciaire. J'estime que ces menaces de mort dont t'es victime, la juge, sont inadmissibles et doivent être condamnées avec force. Mais je crois aussi qu'on a le droit, dans le débat démocratique, de s'interroger sur des décisions de justice, de les commenter et de dire qu'elles posent des questions, comme par exemple celle de l'exécution provisoire.
Oui, vous disiez que vous donniez des nouvelles de ses proches, etc. Vous l'avez eu au téléphone, Nicolas Sarkozy, depuis?
Non,
vous l'avez
je l'ai manifesté par message sans vouloir le déranger. La solidarité qui est la mienne et mon soutien le plus affectueux, le plus personnel. Mais encore une fois, que l'on connaisse ou pas Nicolas Sarkozy.
C'est quand même important, parce qu'on vous a aussi invité sur ce plateau pour en savoir plus.
Nicolas Sarkozy a toujours demandé à être traité comme un justiciable, comme les autres. Pas plus, pas moins. Et la question de cette décision de justice, elle est posée pour n'importe quel justiciable. La question de l'exécution provisoire, qui selon moi devrait être vraiment limitée, par exemple au risque de fuite ou au risque de récidive. Qui peut imaginer qu'il y aurait récidive alors que Nicolas Sarkozy s'est mis en retrait de la vie politique? Qui imaginait qu'il pourrait y avoir un risque de fuite alors que Nicolas Sarkozy a toujours répondu aux convocations de la justice et a même subi 250 heures d'interrogatoire. Donc, je crois que l'exécution provisoire, aujourd'hui, doit être interrogée pour n'importe quel justiciable, doit être limitée, et peut-être d'ailleurs, il y, a-t-il des réformes politiques à mener, comme par exemple celle qui consiste à pouvoir faire appel d'une exécution provisoire. Ça existe en droit administratif, ça n'existe pas en matière pénale. Vous voyez, au-delà de Nicolas Sarkozy, de l'affection qu'on peut avoir pour lui, du soutien politique qu'on a pu lui apporter, il y a des vraies questions de droit que l'on peut s'interroger, sur lesquelles on peut s'interroger comme citoyen et comme justiciable, tout en respectant, je le dis avec force, l'autorité judiciaire.
Bien sûr. Depuis l'annonce du verdict, on sait que Nicolas Sarkozy a parlé avec Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Voici ce qui est dit. J'ai échangé avec le président de la République, dont tout le monde sait que nous avons pourtant des désaccords. Albert Zenou, pourquoi est-ce qu'il le dit, qu'il a parlé avec Emmanuel Macron ?
Je crois que ça fait partie de sa défense aussi, hein, de dire que autour de lui, beaucoup de gens ont manifesté leur soutien et leur solidarité pour sa personne, ont émis des idées et émis des critiques sur la décision de justice, et dire qu'il a eu Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, ça veut dire que même les plus hautes autorités de l'État actuel, c'est pas qu'elles sont avec lui, c'est qu'elles ont pris conscience que ce n'était pas n'importe qui, qu'il était à même de parler, on pouvait parler avec lui. Et donc, il était quelqu'un de défendable. Et d'ailleurs, le communiqué qu'a fait Emmanuel Macron ce soir pour dire, il a fait dire en même temps Emmanuel Macron, à la fois un soutien un peu appuyé à l'autorité judiciaire, on ne la critique pas, on peut critiquer. Mais on ne menace pas. Ça, ça va dans cet ordre-là. Il s'agit pour Emmanuel Macron d'apporter un petit soutien malgré tout à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy a besoin aussi d'avoir dans ce combat qu'il mène pour sa liberté. Hein, aujourd'hui, il ira en prison dans quelques jours, hein, quelques semaines. Donc. Il est important d'avoir avec lui des éléments forts.
Laurent Valdiguier, on sent quand même, dans tout ce que vous dites aussi, que Nicolas Sarkozy a beaucoup d'influence au sein du gouvernement. C'est peut-être le président qui a le plus d'influence aujourd'hui. L'ancien président, en tout cas.
C'est vrai que Nicolas Sarkozy, il est à plein temps rue de Miroménil dans ses bureaux. Et il reçoit toute la journée. Hein,
Sébastien Lecornu était venu le voir dès sa nomination à Matignon.
Il a un bureau qui est en fait un salon de réception. Nicolas Sarkozy, toute la politique française défile. Et au-delà, parce qu'en réalité, on connaît son activité d'ancien président, on connaît son activité politique, on connaît un peu moins son activité dans les affaires. Puisque Nicolas Sarkozy, il est au conseil d'administration de plusieurs groupes,
du groupe Lagardère.
Il a plusieurs vies à la fois, il a plusieurs casquettes, Nicolas Sarkozy, dont celle de s'occuper et de gérer ses affaires en cours, parce que c'est vrai que l'histoire un peu se répète. On n'aurait pas la bande son, tout ce qu'a dit Geoffroy Didier tout à l'heure. Il aurait pu dire exactement la même chose après la première condamnation à un an ferme dans l'affaire dite des écoutes. C'est aussi un gros choc pour Nicolas Sarkozy, hein, quand il a été condamné pour la première fois à un an de prison ferme. Il avait dit exactement au mot près, je ne baisserai pas la tête, je suis innocent, je démontrerai mon innocence jusqu'au bout, je vais faire appel, en appel tout ça s'effondrera. Ça s'était pas effondré en appel. Et en cassation, c'est devenu définitif. Ça lui a coûté sa Légion d'honneur à son grand regret, parce que c'est vrai que même si publiquement il a toujours dit que la Légion d'honneur dans son cœur, il l'avait eu pour la libération des otages de l'infirmière de Neuilly, ça lui importait pas. Mais on sait quand même que il en veut énormément à Emmanuel Macron de ne pas être intervenu, parce que ça l'a effectivement blessé. Et puis après, il y a l'affaire Pygmalion de l'élection de 2012. Une fois en première instance, une deuxième fois en deuxième en appel. Et puis là, ça va venir devant la Cour de cassation dans un concours de circonstances énormes, parce que ça va tomber au même moment pour lui, le 8 octobre. Donc vous voyez, on a l'impression que l'histoire se répète toujours. Mais moi qui vis les procès à l'intérieur, ça se passe toujours très mal. Puisque voilà, vous n'avez pas parlé des faits, du fond du dossier. Mais le fond du dossier qui a été jugé cette semaine, c'est une collusion et un pacte, une association de malfaiteurs, avec un des pires régimes de la planète. Et il y a quelque chose qui est un peu passé à la trappe depuis quelques jours, c'est le fait que les parties civiles, les familles des attentats, de l'attentat du DC-10, elles étaient toujours présentes au procès. Les familles, elles ont été déclarées recevables. C'est-à-dire que le tribunal a estimé que leur préjudice pour l'attentat, en tant que famille de victimes d'un attentat qui a lieu en 1989, elles avaient un préjudice de ces rencontres de Brice Hortefeux, Claude Guéant et Nicolas Sarkozy avec Abdallah Sennouzi, l'auteur des attentats. Ils ont même été condamnés solidairement, les trois, à verser 2000 euros par famille. Il y a une centaine de familles. Donc rendez-vous compte, au-delà de la polémique sur association de malfaiteurs, un délit subalterne, je vois pas au nom de quoi ce serait un délit subalterne. C'est un des délits qui est puni de la plus haute peine en correctionnel, 10 ans.
On ne parle jamais du fond.
Donc mais c'est vrai qu'il y aura un appel. Il y aura un appel, bien entendu, il y aura un appel. Bien entendu, il y aura un appel et bien entendu, l'exécution.
Je vous laisse réagir à ça, mais après, je voudrais qu'on revienne au quotidien de Nicolas Sarkozy. Mais allez-y.
C'est trop rigoureux pour ignorer que la plupart des chefs d'accusation sont tombés. Que Nicolas Sarkozy et les autres prévenus ont été relaxés du financement illégal de campagne. Vous parlez d'un financement de campagne. Il est où le financement de campagne? Il a été relaxé sur le financement de campagne.
Il y a eu un tamis judiciaire.
Il est où le pacte de corruption? Mais il y a une relaxe sur le pacte de corruption.
Il est concentré
il est
dans
l'enrichissement personnel dont certains ont parlé.
Mais vous savez
il est où le document de Mediapart dont on disait qu'il était vrai et finalement il a été jugé
Vous savez, vous êtes trop rigoureux et vous avez suivi le procès de A à Z. Vous savez ce qu'elle a dit sur l'enrichissement personnel?
Comme par hasard, oublié de dire ça à la télévision ce soir.
Mais ça tombe bien. Sur l'enrichissement personnel, vous savez ce qu'elle a dit et écrit la juge? Elle a dit qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel au sens strict, mais que tout ça lui avait servi à être élu président de la République.
Vous croyez vraiment? Vous croyez?
Non, mais c'est dingue, c'est tout ça est fait sans preuve.
Mais ce sont des hypothèses. Mais là aussi, c'est des éléments de langage. Mais il y a une démonstration judiciaire.
La justice, on peut l'assumer. Ce sont pas des éléments de langage.
La justice se fait sur des preuves. Tant qu'il n'y a pas de preuves, c'est très. On peut pas condamner quelqu'un sans preuve, juste sur une hypothèse.
Mais c'est pas une hypothèse. C'est une démonstration judiciaire.
Pour mettre tout le monde d'accord, je voudrais faire appel à la Suisse, en la personne de Richard Verly. Allez-y. Comment est-ce que c'est vu en Suisse?
Mais d'abord, vous parliez du délit d'association de malfaiteurs. En Suisse, et en tout cas en Suisse francophone, le mot malfaiteur a fait très mal. Le mot malfaiteur est désormais accolé à un ancien président de la République française. Et ça, je peux vous dire que ça fait très mal. C'est quand même un mot qui est grave. C'est quand même un mot qui est extrêmement connoté. On pense tout de suite à des synonymes, truands, criminels. Et ça, c'est le premier choc. Le deuxième choc, c'est un procès dont la Suisse était présente à ce procès. Les circuits financiers, une bonne partie des circuits financiers, passaient par Genève. Et les deux des inculpés qui ont été le plus lourdement condamnés, c'est-à-dire Monsieur Djouri, Alexandre Djouri, 6 ans de prison si je ne me trompe pas, et Waïb Nasser, banquier de son État, 4 ans de prison.
Mandat de dépôt pour les deux.
Voilà. Les deux étaient basés à Genève. Donc, autant vous dire que c'est un procès qu'on a suivi de près. Après, les leçons qu'ils ont retenues, d'abord, quand même, cet acharnement. Alors maintenant, on voit bien que les propos change un petit peu, mais dans les jours qui ont suivi le jugement, dans les heures qui ont suivi le jugement, l'acharnement contre les juges et la justice. Vous savez, en Suisse, on élit les juges. Donc on sait si les juges sont partisans, puisqu'ils sont élus sur une couleur politique. Mais on peut les critiquer, mais on ne se permet pas à ce point d'assaillir, de prendre d'assaut l'institution judiciaire, même si je note que maintenant, les mots et les formulations commencent à changer. Deuxième chose, et là, je suis obligé d'aller dans le sens de Laurent Valdiguier, quand même, vous tapez Nicolas Sarkozy et vous avez une avalanche d'affaires. Ça voudrait donc dire que dans toutes ces affaires, et là, permettez-moi de prendre une casquette de correspondant étranger, parce que j'ai lu toute la presse internationale, tous mes collègues, on se pose la même question. Ça voudrait dire que dans toutes ces affaires, les juges complotaient et réglaient des comptes contre Nicolas Sarkozy. Dans toutes ces affaires, on parle de quoi? On parle, j'imagine, peut-être d'une vingtaine de juges au total qui ont été mobilisés.
Il y a jugement à chaque fois.
Voilà, une vingtaine de juges.
Plus trois procureurs, plus trois juges d'instruction, plus au moins le double de magistrats.
Tous ces magistrats qui appliquent la loi, sont donc dans un règlement de compte contre Nicolas Sarkozy. Avouez que c'est difficile. Et ensuite, quand même, Albert, moi j'ai suivi une affaire qui n'a rien à voir avec l'affaire Sarkozy, qui était l'affaire UBS. Une banque suisse qui était accusée en France d'avoir pratiqué de l'évasion fiscale, d'avoir démarché des clients français. Elle a été condamnée à plus d'un milliard d'euros d'amende. Il n'y avait aucune preuve matérielle. Il n'y avait aucune preuve d'un virement quelconque ou d'un transfert d'argent que UBS aurait effectué prenant de l'argent en France, démarchant des clients français et emmenant cet argent en Suisse. Ça n'a pas empêché la justice française de condamner UBS. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un faisceau concordant d'éléments qui ont convaincu les juges que la banque suisse avait bel et bien, alors qu'elle n'en avait pas le droit, démarché des clients français.
Mais là, on est d'accord qu'il y a eu un faisceau concordant d'indices qui ont permis aux juges de considérer qu'il n'y avait pas eu de financement illégal de campagne. Je pense que c'est nécessaire de le rappeler pour la parfaite information de ceux qui nous écoutent, qu'il n'y a pas eu pacte de corruption, et qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. On est d'accord là-dessus?
Pas tout à fait.
Ah bon?
Parce que le, parce que l'association. Non mais je suis pas d'accord. Je ne sais pas d'accord ou pas d'accord. C'est factuel. C'est pas mon opinion.
Mais c'est comme moi.
Ce n'est pas mon opinion.
Ben moi non plus.
Les juges ont considéré que l'association
que
l'association de malfaiteurs reposait sur un pacte avalisé par Nicolas Sarkozy, ayant envoyé en Libye ses deux principaux lieutenants, Claude Guéant et Brice Hortefeux. Vous les connaissez bien. Ce sont réellement ses principaux lieutenants. Dans le plus grand secret des autorités diplomatiques de l'époque, et que ce pacte prévoyait le financement de la campagne de 2007, et de l'argent est parti dans les comptes de Takieddine en Suisse, mais cet argent, disent les juges, c'est là qu'il s'arrête. Les juges n'écrivent pas, il n'y a pas eu de financement. Les juges disent,
pas de financement illégal,
cet argent qui est venu des Libyens, on ne peut pas donner la preuve qui corresponde à l'argent liquide qui a été retrouvé dans la campagne.
Pardon, malheureusement, on n'a pas le temps de refaire tout le procès, mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, notamment puisque vous parliez de, vous disiez ce qu'on en pense du côté de la Suisse, Didier Verly. Je voudrais qu'on aille du côté de Londres, parce qu'il y a Laura Calmu qui nous attend. Bonsoir, Laura, merci d'être avec nous. Vous êtes notre correspondante BFM TV à Londres. Est-ce que la condamnation de l'ex-président est arrivée jusqu'à vous?
Bien sûr, et je peux vous dire que la presse britannique en a beaucoup parlé. C'est la chute d'un président bling-bling, titre par exemple le Daily Mail ou pour le Sunday Telegraph. Eh bien, c'est aussi la chute d'un homme qui se prenait pour Louis XIV, explique le journal, qui le décrit en fait pour lui, comme pour le roi soleil Louis XIV, c'était une affaire l'État, c'est moi. Il est décrit en fait comme un joueur cynique, prêt à tout pour accéder au pouvoir. Alors le choc, c'était évidemment aussi dans la sanction. Le Times qui rappelle, si Nicolas Sarkozy est incarcéré, eh bien ce sera une première depuis Pétain. Le journal qui rappelle que c'est un homme rusé, convaincu qu'il s'en sortirait un jour, mais qui se retrouve aujourd'hui en prison et qui, selon le Sunday Times, entraîne la République dans la boue.
Merci beaucoup, Laura Calmu. Je vois que vous avez envie de réagir, Laurence Saillet. On le rappelle, vous êtes ancienne députée européenne. Et membre de la famille LR, évidemment.
Tout à fait. Alors, c'est pas parce que la presse britannique titre ça que les habitants pensent ça. Vous savez, c'est toujours. Je pense pas que tout le monde là-bas se dise que c'est la chute du président Bling Bling. Etc. La presse fait pas la vie. Je respecte tous les journalistes et chacun exprime ses opinions. Mais on a l'impression que c'est la parole de tout un pays. Je ne suis pas sûre que tout le monde pense ça. Et tout à l'heure, monsieur, quand vous disiez l'acharnement qu'il y a eu sur les juges après, j'aimerais savoir...
Je m'interrogeais.
Oui, mais on parle d'acharnement qu'il y a eu dans les propos. J'aimerais qu'on me cite des propos publics qui ont été tenus et qui soient profondément choquants contre les juges. Peut-être que je n'ai pas entendu, mais...
Marine
Le
Pen a parlé d'un tableau de chasse de la magistrate, notamment, il me semble. On a parlé de complot, on a entendu des mots extrêmement forts.
Mais de toute façon, on n'empêchera pas les Français de penser. Vous savez, c'est comme sur les autres sujets, comme l'immigration.
Il ne s'agit pas tout à fait de Français comme les autres, mais de personnalités politiques de premier plan.
D'accord, mais je n'ai pas senti un acharnement dingue. On n'a pas dit, et bien heureusement, et je condamne tout à fait les menaces qui sont faites aux magistrats, pour l'avoir vécu moi-même, je peux tout à fait imaginer ce qu'ils vivent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas essayer de museler, entre guillemets, les Français. En disant, arrêtez de critiquer cette décision parce que vous mettez les juges en danger. Si, parce qu'il y a cette petite musique. Et sur l'immigration, on a vécu la même chose. On nous a dit tout le temps, arrêtez, vous faites monter le RN, arrêtez de parler de ça. Mais on n'empêchera jamais les Français de penser. Et je pense qu'il y a une grande partie des Français qui sont profondément choqués par le fait que même si Nicolas Sarkozy gagne en appel, il aura été en prison en tant que président de la République. Et je pense même que c'est ça qui a motivé le mandat de dépôt. Parce que, comme c'est pas si solide que ça, le dossier, ils se disent qu'au moins, même s'ils gagnent en appel, ils ont eu je veux pas dire le plaisir, mais le gain de l'envoyer en prison.
Joachim Pueyo.
Oui.
Vous vouliez réagir.
Moi, je voudrais... Bon, j'écoute tout le monde. Je pense que l'opinion publique est plus diversifiée que vous le pensez.
J'ai dit une partie.
Attendez, vous regardez un petit peu, je lis des fois les réseaux, c'est très diversifié. Vous savez ce que disent les... Moi, je suis député, j'étais député, je suis maire depuis très longtemps, je suis ancré dans le territoire. Les habitants, ils cherchent de l'exemplarité de la part des élus. Et ces affaires qui sont cumulées, Mais il n'y a pas que l'ancien président. D'autres élus aussi ont eu des problèmes. On se rappelle peut-être qu'il y a des ministres qui ont été en prison, je vais pas les citer, avec des affaires très graves. Et donc, la question, c'est l'exemplarité. Dans les pays nordiques, un ministre qui ferait le centième, ben, il démissionne immédiatement.
Vous étiez député de quel parti, monsieur ?
Parti socialiste.
D'accord.
Oui, mais ça n'a rien à voir.
Non, mais François Hollande a dit beaucoup de choses sur les magistrats. Je pense que vous pouvez reprendre ses ouvrages. François Mitterrand aussi.
Oui,
non, mais quand écoutez, on est à gauche, on peut critiquer les magistrats. Quand on est à droite, c'est tout de suite un scandale.
Ça, non, je vous dis pas ça.
Je pense que vous pouvez vous référer aux propos de vos amis socialistes.
Je parle de l'exemplarité des hommes politiques. C'est une question qu'il faut se poser.
Oui, mais vous avez
à tous les niveaux.
On n'a jamais dit le contraire.
À tous les niveaux, comme on s'est posé la question récemment sur le train de vie, qui est quand même considérable parfois en France par rapport à des pays nordiques. Moi, j'ai fait des stages au Danemark, ça n'a rien à voir. Bon. Donc ça, c'est une question. Et donc, les affaires qui se sont cumulées, c'est vrai que on se pose des questions, honnêtement. Alors ensuite, moi, j'étais quand même très choqué. C'est pas, effectivement, il n'y a pas un homme politique à critiquer les magistrats, mais quand même, il y a quand même de plus en plus de critiques sur la magistrature. Et c'est quand même l'état de droit. Il faut faire attention à cela. En plus, ce sont trois magistrats qui ont pris cette décision. Trois, c'est pas une présidente. Il y a eu le parquet également. Et le président de la République ex avait les moyens, il s'est bien défendu, il avait quand même des bons avocats. Donc ensuite, eh bien, je crois qu'il faut accepter, je crois, moi, pour ma part, les procédures. Il y aura des recours.
Il faut les
accepter.
Mais, vous avez raison, il passera néanmoins par la case prison.
L'état de droit n'empêche pas des critiques.
Il aura tous les moyens pour se défendre. Bon, et on verra ensuite.
Enfin, monsieur, quand vous avez été en prison et que vous êtes président de la République, je ne sais pas si vous imaginez l'image.
Justement, pour cette raison qu'on vous a invité, notamment. Alors, justement, venons-en aux conditions d'incarcération, puisque Laurent Saillez, vous le disiez, vous avez beaucoup de mal à imaginer Nicolas Sarkozy en prison. C'est ce que vous nous disiez ces dernières heures, notamment. On va en parler avec vous, Joachim Pueyo, parce que vous avez travaillé dans le milieu carcéral pendant des années. Vous étiez le directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis, c'est au cas où certains téléspectateurs nous rejoindraient. On nous parle beaucoup du choc carcéral. C'est une réalité ?
C'est une réalité. C'est une réalité parce qu'effectivement, vivre comme on a pu vivre quand on est président et puis arriver dans une cellule 9 mètres carrés, c'est vrai que c'est un choc carcéral. D'ailleurs, le choc carcéral, il concerne tous les primo-entrants. Peu importe leur statut social.
Peu importe leur caractère, leur personnalité.
Il y a un choc carcéral. Alors certains arrive à maîtriser et d'autres pas. Et moi, j'ai vu effectivement des anciens ministres arriver en prison. Je me souviens que M. Papon est venu à Fresnes, j'ai dirigé Fresnes. Ben, lui, il avait bien résisté, par contre. Bon, mais il y a quand même le choc carcéral. Et là, il faut faire très attention à cela. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en place des dispositifs d'accompagnement au sein de la prison. Effectivement, quand vous écrouez, enfin, je ne sais pas s'il sera écroué, on verra entre le 13 octobre et le c'est 4 mois, en fait, le délai. Oui. Ça fait plaisir à personne d'aller en prison.
Comment vous accueillez une personnalité quand vous êtes directeur de prison? Vous avez accueilli Maurice Papon. Alors, comment ça se passe?
On prend beaucoup de précautions à tous les niveaux. Simplement. Il y a les modalités de l'écrou, on essaie de les simplifier rapidement.
C'est-à-dire?
On ne les fait pas attendre dans une salle d'attente avec d'autres détenus, par exemple. Ah oui. Donc, on les prend en priorité. Deuxièmement, il y a un circuit arrivant, c'est-à-dire que le détenu, la personne détenue, va dans un quartier arrivant où là, il rencontre un responsable pénitentiaire, le médecin, etc., psychologue, le SPIP. Moi, j'ai souhaité que Maurice, un exemple, aille directement dans ses cellules. Ensuite, il a eu des entretiens. Donc, il y a quand même des précautions à prendre, des précautions sur sa propre sécurité également.
Ce sont des précautions ou des traitements de faveur?
Non, c'est pas des traitements de faveur. C'est pas des traitements de faveur, c'est simplement une protection par rapport à sa propre sécurité. Parce que quand vous écrouez quelqu'un dont les faits ont été très médiatisés, on peut imaginer des réactions violente de certains co-détenus. Donc, il faut bien le protéger. C'est pas une question de faveur, c'est une question de protection.
Et vous pensez que Nicolas Sarkozy aura besoin d'être protégé en prison?
Oui, absolument. Dans ses mouvements, dans Alors, on verra ensuite, parce qu'il peut toujours demander une libération provisoire. Ça peut être accordé rapidement. Et s'il était condamné définitivement, ça, c'est la cour d'appel qui le décidera. Il peut demander immédiatement une libération conditionnelle, puisqu'il a plus de 70 ans. C'est une nouvelle loi également. Mais effectivement, il y a le choc carcéral. Il y a une prise en charge qui doit être... Et puis, je pense que la famille peut jouer un rôle important. La famille joue un rôle important. Je pense qu'il sera entouré par sa famille, donc ça, c'est fondamental.
Laurent Valdiguier, vous nous le disiez, pardon, oui. Mais il va avoir trois parloirs par semaine.
Je crois qu'il y a trois parloirs par semaine.
On va voir Carla Brunier défiler aussi, ses enfants, ça va être des moments extrêmement
exactement, mais ça veut dire que pour la famille, c'est plus...
aussi.
Imaginons que vous soyez directeur de la santé demain.
Oui.
Est-ce que pour la famille, il y a moyen d'aménager des parloirs spéciaux? Vous me disiez tout à l'heure, je vais à l'essentiel en vous posant la question, tout se sait en prison, on peut pas faire de régime de faveur.
Non, mais il n'y a pas de régime de faveur. Vous écoutez des anciens ministres qui ont été en prison. Mais par contre, il y a des précautions. Par exemple, s'il y a un parloir avec une personne qui est très médiatisée, faut éviter que cette personne attende avec les autres familles. Ça peut poser des problèmes. Donc, il y a des possibilités de circuit rapide. Et je crois qu'il faut le faire. Il faut le faire. C'est indispensable. Parce que quand vous dirigez un établissement pénitentiaire, vous savez, recevoir des personnes qui ont marqué l'opinion publique dans différents domaines, C'est pas simple. Faut prendre beaucoup de précautions. Et puis, je pense également, il faut avoir un regard humain. Parce que l'humanité joue un rôle important également. Peu importe, effectivement, nos opinions politiques. Un regard
bien
humain.
Sûr.
Et il faut l'avoir, d'ailleurs, pour toutes les personnes détenues. Et la question. Parce que si, effectivement, on n'était pas en surpopulation pénale. Et ça, moi, je me pose beaucoup de questions. On n'a pas assez construit de places de prison. Parce que quand vous parlez du short carcéral, moi, je connais un maire de ma circonscription qui a été écroué récemment pour une affaire. Il n'était pas sur la cellule. Hein. On l'a mis avec deux autres détenus. Et vous voyez le choc, l'indignité.
Je suis totalement d'accord avec vous.
Et donc, il y a un problème. Assuré d'avoir une cellule seule.
Oui, parce qu'en réalité, on va dire que dans tous les établissements pénitentiaires, vous avez des unités pour, on appelait ça des VIP, c'est pas ça, unité pour les personnes détenues qui peuvent être vulnérables d'une manière ou d'une autre. Moi, j'avais une unité à Fleury-Mérogis, à Fresnes, et quand dans les maisons d'arrêt, vous n'avez pas d'unité, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend une décision de l'isolement. C'est-à-dire que la personne détenue est seule en cellule, et il est seul en cours de promenade, et ses déplacements sont encadrés. Mais là, s'il a la santé, on dit la santé, on ne sait pas, hein.
C'est ce qui semble le plus probable. Ouais. Laurent Valdiguier s'est mouillé, il a dit la
présentation. Sur l'affaire de l'ancien président, moi, j'écoute simplement. J'ai pas d'opinion là-dessus. Même si je peux comprendre que une décision de justice peut être critiquée, bien évidemment. Moi-même, je le fais dans mon département quand une décision de justice me paraît pas assez sévère. Je dis quand même, bon, mais c'est tout. Mais il faut bien respecter quand même la procédure pénale.
Si vous remettez votre casquette d'ancien directeur de prison, à quoi est-ce qu'il faut faire attention en premier lorsque Nicolas Sarkozy est incarcéré? Quelles sont les démarches à suivre? Qu'est-ce qu'il faut changer?
Alors, je pense que il faut discuter. Il faut lui expliquer.
Avec lui.
Il faut que les services lui expliquent comment ça va se passer au niveau de sa vie quotidienne.
Ah oui.
Ses droits également, parce qu'il peut téléphoner, bien évidemment. Ses devoirs et ses droits, il faut bien expliquer. Et puis, il faut également observer aussi. Parce que je crois que Nicolas Sarkozy est très fort, vous l'avez dit, psychologiquement. Mais moi, j'ai vu des personnes soi-disant très fortes et qui pouvaient vite déprimer. Donc, il faut mettre en place une surveillance spéciale, régulière, peut-être toutes les heures, toutes les deux heures. Parce qu'on peut pas savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne qui a quand même été à la
même
tête.
Même si on a le sentiment de le connaître par cœur, c'est le cas.
C'est quand même difficile aussi.
Ça
donc là, longtemps. Il faut prendre des précautions. Et puis surtout, il faut que sa détention permette à ses avocats de travailler également. Parce que je pense que les avocats vont, vont préparer sa défense. Il y aura un appel. Je sais pas dans combien de temps ça va durer.
Et puis, promis que cette
et puis il a une
la
possibilité également.
C'est la règle quand il y a.
C'est la règle. Oui. Il a une possibilité également de demander une libération provisoire. Là, c'est un magistrat qui prend la décision.
Geoffroy Didier, vous vouliez apporter un détail à ce qui était
raconté. Vous avez raison de parler de choc carcéral. Oui. J'ai moi-même été visiteur de prison pendant plusieurs années. Et effectivement, il y a un choc carcéral pour tout être humain qui rentre dans un lieu aussi fermé que celui-là. C'est la raison pour laquelle, je vous avoue, j'ai été choqué par cette jubilation malsaine dont certains élus LFI ont fait preuve en se réjouissant de la condamnation d'un homme, quel qu'il soit. Il n'y a pas eu mort d'homme. Moi, j'aurais préféré que les prisons soient remplies plutôt de ceux qui ont agressé des policiers, de ceux qui tuent, de ceux qui violent. Et heureusement qu'évidemment, il y en a beaucoup en prison.
Mais vous disiez que vous visitiez les prisons. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de vos visites?
La douleur de l'indignité, de la douleur de ceux qui y sont, qui sont parfois en détention provisoire, face à l'indignité de l'état de nos prisons. L'état des prisons françaises est un scandale d'état.
Oui.
Il n'y a pas d'encellulement individuel pour ceux qui le souhaitent. Il y a des prisons avec des taux d'encellulement de près de 300%. Ce n'est pas digne d'un pays comme le nôtre. Nous donnons des leçons de droits de l'homme au monde entier. Nous avons des prisons qui sont indignes. Donc je crois que la prison doit être utile. Utile, c'est-à-dire permettre à des détenus, non pas de prendre conscience de leur état de délinquant, mais d'être réinsérés pour se réintégrer dans la société et faire en sorte qu'il y ait une sanction, parce que la sanction est utile, mais qu'il y ait aussi une réinsertion dans la société une fois qu'ils sortent. Parce que le but, c'est qu'ils puissent sortir et qu'ils ne récidivent pas. Et la manière dont certaines prisons aujourd'hui sont, c'est-à-dire dans un état d'inhumanité totale, contrevient au but même de la prison au-delà de la simple sanction. Oui. Donc c'est l'état des prisons qui est un véritable scandale et qui m'a choqué en étant visiteur.
C'est un côté du décor, mais excusez-moi, je fais un peu le penchant, parce que je ne voudrais pas que toute cette histoire nous amène à être totalement, si vous voulez, dans l'empathie totale avec tous ceux qui ont tué, violé.
Ça. Non, mais
je l'aurais dit hier, je conseille votre reportage Ligne Rouge qui a été fait, où on voit, qui a été diffusé hier soir, où on voit tous les trafics en prison et certains trafiquants qui, dans leur cellule, continuent à trafiquer, à s'amuser. Donc, je veux qu'on voit les deux côtés.
Oui,
vous voyez,
tout
parce
fait,
que je pense qu'il faut, il faut qu'on soit équilibré. Et Nicolas Sarkozy va vivre les choses, je ne veux pas dire plus difficilement que les autres, mais quand vous allez en prison, vous aurez des voitures qui vont le suivre. Vous aurez des voitures, des photographes qui vont essayer de regarder si sa famille va le visiter. Il devra fuir la photo en permanence, c'est-à-dire la cour pour y aller. Ce n'est pas sûr, parce qu'il y a toujours un risque d'être pris en photo. C'est vraiment un, on dit VIP, mais c'est pire parce que vous êtes totalement à l'isolement.
Et surtout, il s'agit d'un ancien président de la République. Il faut imaginer que ça va être un choc pour lui, Laurent Valdiguier, d'arrêter toutes ses activités du jour au lendemain. Ce n'est pas n'importe qui.
Ce sera brutal. Hein,
Bien sûr.
C'est brutal,
ça dure.
Mais peut-être
le
même plus brutal que pour quelqu'un d'autre.
Ça dépend. Moi, j'ai vu des personnes qui déprimaient totalement. Hein, donc, le choc va durer plusieurs... Enfin,
qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si on voit quelqu'un déprimé?
Ben là, il y a quand même des psychologues qui peuvent venir accompagner la personne. Mais il y a un choc carcéral qu'il ne faut pas écarter du tout. En plus, ce que vous avez dit, c'est exact. Hein. Il y aura des pressions autour. Des fois, je suis surpris. J'ai vu des politiques, je me souviens dans l'affaire des paillotes de Corse, où j'ai reçu malheureusement ceux qui étaient...
le préfet Bonnet.
Oui, puis le directeur de cabinet et puis le commandant. Eh bien, ils m'ont surpris parce qu'ils avaient pris le dessus et ils avaient bien réagi. Alors ça va. Mais ça, on le détecte rapidement. Mais effectivement, il y a un choc qu'on peut pas éviter. Pour parler de ce que vous dites avec les trafiquants de drogue, etc. Moi, j'étais partisan, vous voyez, de ce que vient de décider le ministre de la Justice de créer des établissements très sécuritaires. Les deux établissements qui ont été créés, ils ont été, la décision a été prise en 2001. J'étais chargé de mission. J'avais plaidé pour créer des maisons de haute sécurité. Mais par contre, parallèlement, il y a une surpopulation pénale qui, met en cause la peine elle-même, et qui est une fabrique de la récidive, Quand vous avez des détenus qui sont à trois dans une cellule, alors que c'est prévu pour un détenu avec un matelas par terre, je veux dire que c'est terminé, quoi.
D'autant plus que c'est les pauvres qui payent, enfin c'est les plus fragiles qui payent, parce que là c'est vraiment la loi du plus fort.
Tout à fait.
C'est-à-dire que mais les têtes de trafic, simplement gèrent toute la prison, et vous avez les pauvres qui se font... Ouais.
Ce que je voulais vous dire, c'est que ces unités pour qu'on appelait VIP autrefois, qu'on appelle maintenant unités pour...
Vulnérables.
C'est il y a même des unités avec des aménagements particuliers dans les détentions. C'est indispensable, parce que normalement, il faut individualiser l'exécution des peines. Individualiser. Ce qui veut dire qu'il faut...
Est-ce que c'est possible aujourd'hui dans nos prisons?
C'est difficile parce qu'on n'a pas assez de place. Mais pour des situations telles qu'on est en train d'examiner, c'est indispensable. Et ce n'est pas une faveur. On le fait depuis de nombreuses années, bien évidemment.
Est-ce que Nicolas Sarkozy aura des moyens de communication?
Il peut téléphoner. Pas avec un portable, parce que c'est interdit, vous savez bien. Mais
Lui, il ne le fera pas.
Il ne le fera pas. En plus, il appliquera les règlements. Mais il aura un téléphone dans sa cellule. Les nouvelles cellules actuellement en France, elles sont quand même meilleures
donc
que les anciennes.
Il aura un téléphone dans sa cellule, oui. Ça veut dire oui. Qu'il peut appeler n'importe
avec
quoi.
Avec des numéros
qui seront validés par le parquet, parce que là, il dépend toujours du parquet. Tant qu'il n'est pas condamné définitivement, c'est le parquet qui pourra dire OK. Donc, il pourra téléphoner à sa famille, à ses avocats, bien évidemment.
Il sera écouté.
Sauf avec les avocats, effectivement. C'est interdit. Et c'est normal. De toute façon, la défense doit être protégée. Donc, il aura des possibilités. Mais le choc, c'est quand même une cellule de 9 mètres carrés, cour de promenade seule.
La nuit, surtout, c'est difficile.
Et la nuit, c'est quand même, il faut le dire, c'est difficile pour tous les détenus, mais pour une personne qui a eu les grandes fonctions de l'État, je peux comprendre que ça va être quand compliqué.
Et s'il est acquitté en appel, tout cela n'aura servi à rien.
Ça, c'est la décision de la justice, effectivement. Oui.
Mais vous admettez que ça pose la question de l'exécution provisoire.
Ensuite, c'est ça qui vous choque aussi, si d'entendre les conditions de détention de Nicolas Sarkozy en vous disant que ce sera fait avant le procès en appel.
La question de l'exécution provisoire, c'est comme la question de la détention provisoire. C'est des questions qui sont très liées. À un moment donné, on se disait qu'il y avait beaucoup trop de détention provisoire en prison, beaucoup trop. Donc on a réduit. Bon, mais c'est vrai que ça peut poser
problème. Et on peut quand même encore faire la différence entre des gens qui sont dangereux pour la société ou pas. Ça devrait quand même être une raison qui motive ou pas l'incarcération,
selon
la
détention provisoire. Selon le risque de fuite ou le risque de récidive.
Oui, mais même le danger. Parce que quand on voit, c'est un fait divers récent, c'est pour ça qu'on cite celui-ci, des jeunes qui agressent un policier, qui le tabassent et qui ne sont pas en prison, qui dorment à la maison, vous comprenez que quand je parlais de la population française qui peut être choquée, quand on fait le parallèle, on ne peut que être choqué. Quand on voit qu'on relâche préventivement ou avec des peines beaucoup plus ramassées, on va dire, des gens qui ont frappé leur épouse et qui ressortent de prison pour les tuer. Enfin, moi, je sais pas. Là, on va libérer des terroristes qui ont fini leur peine, qui étaient pour association de malfaiteurs d'ailleurs, qu'on sait très dangereux. On va les lâcher dans la nature alors qu'ils sont un danger pour la société. Oui, là, ça me pose problème. C'est pour ça que je veux pas qu'on mélange tout. Quand on n'est pas dangereux pour la société, qu'on puisse être en liberté le temps qu'on fasse appel, c'est une chose. Quand on est dangereux, par contre, là, je trouve que c'est justifié. Faut pas faire cet amalgame. J'entends beaucoup d'avocats qui prennent un peu la différence de Sarko alors qu'ils sont d'habitude très opposés. Et je me dis, tiens, mais pourquoi? Et quand on les écoute bien, ils sont en train de se servir de cette affaire pour remettre en cause, en fait, le fait qu'on incarcère.
Évidemment, on n'a pas comparé.
Avouez que le sujet que vous évoquez est délicat. Et je ne parle pas de l'affaire Nicolas Sarkozy, mais comment vous faites avec la criminalité en col blanc? Il y a énormément de criminels en col blanc qui ne posent pas de danger à la société. Et ils ont pourtant commis des vrais crimes. Et quelquefois des crimes.
On peut les faire condamner définitivement à partir du moment où ils vont en appel.
C'est la notion de criminalité.
On nous dit tous les jours, l'exception, c'est la prison. À chaque fois qu'on fait un plateau et qu'on dit pourquoi vous avez relâché un tel, machin, on nous dit, ah, mais l'exception, c'est la prison. Pardon. Et aujourd'hui, là, depuis 4 jours, on nous explique que que la prison, c'est tout à fait normal. Donc, c'est quand même deux poids, deux mesures.
Et je voulais poursuivre sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des formules tellement assassines pour les juges? Moi, j'ai entendu des formules extrêmement graves contre le parquet national financier. Oui. Et, alors là, je peux prendre ma casquette suisse. Vous savez que la Suisse est quand même un lieu où il se passe beaucoup de flux financiers. Et d'ailleurs, nous n'avons pas de parquet national financier en Suisse. À votre avis, pourquoi on n'en a pas? Parce qu'on n'a pas envie de trop creuser ces sujets. Il faut aujourd'hui, face à la complexité des crimes financiers, il faut des juridictions spécialisées, il faut des parquets nationaux financiers, il faut des enquêteurs spécialisés. Faut pas se leurrer. Et donc, quand on attaque comme ça a été fait le parquet national financier sous prétexte qu'il a été créé par François Hollande en 2013 dans le cadre de l'affaire Cahuzac, on attaque la capacité de la justice à s'en prendre à la criminalité en
Je ne les ai jamais attaqués, mais en tout cas le PNF n'avait même pas requis le mandat de dépôt. Alors qu'ils avaient fait un réquisitoire.
Oui, Laurent Valdiguier.
Non, mais juste un point pédagogique. Les juges ont estimé que Nicolas Sarkozy devait aller en détention aujourd'hui compte tenu de l'exceptionnelle gravité des faits.
Et de son statut.
Non. De l'exceptionnelle gravité des faits et de l'effectivité de la peine. L'affaire, elle est ancienne. Les faits datent de 2007. Il y aura un appel, il y aura une cassation. Ils ont estimé que ça devait être exécuté aujourd'hui. Ça n'empêche qu'il va, une fois qu'il sera incarcéré, puisque de ce que je comprends, rien ne s'oppose aujourd'hui à ce qu'il soit incarcéré, c'est une question de date et de calendrier, comme les deux autres le sont déjà, là, il pourra faire une demande de mise en liberté. Et là, dans ce cadre, une fois qu'il sera mis sous écrou, il pourra faire une demande de mise en liberté les juges devront voir les fameux 6 ou 7 critères de l'article 144. Exact. Et ces 6 ou 7 critères, alors là, ils vont cocher des cases. Est-ce qu'il y a un risque de fuite? Est-ce qu'il y a un risque de concertation avec les témoins? Et ça, de tous les observateurs, ces cases-là, à ce moment-là, étant cochées, Nicolas Sarkozy, ses avocats pourront faire droit qu'il n'y a pas de risque de fuite, que compte tenu de l'affaire, il n'y a pas de concertation. Il y a même pas de trouble à l'ordre public en correctionnel. Vous voyez, ils peuvent, puisque la loi prévoit qu'en matière correctionnelle, le trouble à l'ordre public est exclu comme mesure de détention provisoire. Donc là, à ce moment-là, dans un délai habituel à la Cour d'appel de Paris de un mois et demi à deux mois, à peu près. Donc au bout de un mois et demi et deux mois, vous savez bien ça, là, il pourra faire valoir les critères. Et c'est à ce moment-là seulement que se poseront les critères de fuite, pas fuite,
etc. Vous voyez ce que vous avez dit au départ, ça m'interpelle, parce que la phrase exacte, c'est exactement ce que vous avez dit, et cette phrase me trouble. Quand on dit, on veut un mandat de dépôt pour s'assurer de l'effectivité de la peine.
C'est ce qu'ont écrit les juges.
Exactement.
C'est ce qu'ils ont écrit.
Je suis d'accord, mais je vous le dis, je l'ai lu aussi. Ce qui m'interpelle, ça veut dire quoi en sous-titre ? Même s'il fait appel et qu'il est innocent,
nous serons assurés.
C'était le mandat de dépôt, c'est pas obligatoire.
Non, c'est l'appréciation des magistrats.
Nous serons assurés qu'il est bien passé par la case prison. C'est cette phrase-là justement qui me
trouble. C'est l'appréciation souveraine au nom du peuple français de la loi. Et les trois juges qui ont pris cette décision.
Permettez-moi d'être troublée par cette phrase précise, parce que justement, ça veut dire même s'il est innocent. Il passera par la prison.
Décision, elle est légale.
C'est leur décision. Voilà,
je ne conteste pas la légalité de la décision. Je dis juste qu'il y a un effet suspensif de l'appel et qu'au fond, le double degré de juridiction est pour moi un principe sacré comme celui de la présomption d'innocence. Et qu'en fait, avec l'exécution provisoire qui grignote de plus en plus la double degré de juridiction, on arrive à quelque chose qui pose question aujourd'hui et qui appelle peut-être à des réformes politiques comme celle qui consisterait à faire appel de l'exécution provisoire. Je vous rappelle encore une fois que ça existe en droit administratif et que ça n'existe pas en matière pénale et qu'on peut s'interroger aujourd'hui.
Les juges vont appliquer la loi.
La case prison.
Mais je ne dis pas le contraire.
C'est un sujet de fond, mais il faut que le Parlement s'en saisisse.
Exactement. Par exemple, avec une proposition de loi.
Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir et à toutes d'avoir été avec nous sur ce plateau.